Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi 15 mars avec vous pendant 2 heures pour le 10h midi. On va évidemment revenir sur l'actualité, dramatique attentat en Nouvelle-Zélande. On va parler également de la TVA. Est-ce qu'il faut une TVA modulable pour par exemple la supprimer sur les produits bio comme le propose Michel-Édouard Leclerc ou encore la supprimer sur les produits de première nécessité? On va en parler. On parlera également de Christophe Castaner à la une de la presse People ce matin. Et entre 10h et 11h, eh bien, les médias. Rémi Pernelet, bonjour.
Bonjour.
Gilles Gansman, bonjour.
Très bien. Quel déhanché, ce Castaner.
Hein. Oui, absolument. Et vous m'avez
perturbé. Excusez-moi, madame.
On va parler de Koh-Lanta. C'est le grand retour de Koh-Lanta après une année d'interruption. On va en parler avec le directeur des productions d'Adventure Line. Oui, ça commence par la séquence des poteaux.
Incroyable. Le début est très impressionnant. Ah bon. On lui en parlera.
On lui en parlera tout à l'heure. Et puis les livres avec Gérard Collard, comme tous les vendredis, des très bons livres, encore une fois, cette semaine, j'en suis persuadée. Allez, on va commencer avec les audiences et des gadins en cascade, me semble-t-il. Je spoil déjà la chronique de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors, carton,
c'est vrai, mais il y a des cartons aussi, oui. Valérie. Alors, le premier carton, c'est pour TF1, 5 108 000 téléspectateurs et 22,5% de part de marché pour Section de Recherche. C'est la deuxième soirée Section de Recherche, on en a parlé hier avec Franck Sémonin. C'est 500 000 de moins que le lancement la semaine dernière. Enfin, TF1 est très largement leader. Toutes les autres chaînes sont en dessous des 2 millions de téléspectateurs.
Oh là là.
France 3 est en deuxième position. 1 737 000 téléspectateurs et 7,6% de part de marché seulement pour la série britannique Happy Valley. Non, c'est le lancement. C'était le lancement de la saison 2. C'est le lancement de la saison 2 hier.
On l'a déjà vu ailleurs. Moi, je peux vous dire, ma mère, avec qui j'ai parlé ce matin, a allumé sa télé. Elle s'est réjouie en disant « chouette, moi-même, je l'aime mettre devant ». Et en fait, on a déjà vu ces épisodes-là sur Canal+, je dois vous le dire. Donc, c'est pour ça que ça fait un score aussi bas. C'était pas une nouvelle saison.
Si, c'est la saison 2, épisode 1 sur 6.
Mais qu'on a déjà vu, et que les fans ont déjà vu. Voilà.
Eh bien, écoutez, en tout cas, on va continuer l'enquête, mais je pense qu'elle n'avait jamais été diffusée sur France 3.
Bah, écoutez, il y a une chose pour avoir parlé avec ma maman, je vous dis tout. J'ai commencé à regarder. Il se trouve qu'un des personnages est mort, donc je ne vous dirai pas lequel, mais quand vous allumez, que vous voyez qu'il est vivant, vous vous dites, ah bah zut, j'ai déjà vu celle-là.
Bon.
Donc voilà, donc ceci explique cela. Mais
Si le plus dur, c'est faire Koh-Lanta ou Valérie. Vous devriez être une épreuve de Koh-Lanta.
Voilà,
je suis sur les poteaux, c'est bien facile, il n'y a pas de problème. Alors juste, on a aussi perdu Valérie quand même, au pronostic, puisqu'on avait parié sur TF1 et France 2. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je voudrais d'abord signaler aussi un deuxième carton. C'est le match de foot retour Arsenal-Rennes sur RMC Story. 1 600 000 téléspectateurs et 7,5% de part de marché. Hier, c'était la quatrième chaîne nationale. C'est 900 000 de plus que pour le match aller qui était diffusé à 19h et même 750 000 de plus que pour la qualification de Rennes contre Séville le 21 février. Donc ça explique aussi, je pense, la baisse des scores sur toutes les autres chaînes puisqu'habituellement, cette chaîne ne fait que 130 000 téléspectateurs. Vous voyez, donc il y a une grosse différence.
Les gadins.
La rubrique attendue par Valérie, les gadins. Bon, on va commencer.
Non,
par France 2.
Pas, ouais.
France 2, seulement 1 650 000 téléspectateurs pour l'émission politique avec Marine Le Pen.
Oh bah c'est normal, c'est une rediffusion.
400 000... C'est vrai qu'on l'avait déjà vu dans l'émission politique. C'est 400 000 téléspectateurs de moins.
1 million combien, vous dites ?
650 000. Ouais. C'est 400 000 de moins que la semaine dernière pour Envoyé spécial et 400 000 de moins que la dernière émission politique le 23 janvier dernier. Ça, c'était avec tous les responsables politiques, vous savez, à propos de la crise des Gilets jaunes. En fait, c'est la plus mauvaise audience de l'émission politique depuis la rentrée. Puis c'est aussi 100 000 téléspectateurs de moins que pour la précédente apparition de Marine Le Pen dans l'émission politique. C'était le 19 octobre 2017. Donc, les responsables politiques traditionnels, et y compris que ce soit le Rassemblement National ou d'autres partis, ne rassemblent plus une foule aussi considérable qu'auparavant devant France 2. Le dernier top score, c'est 3 220 000 pour Nicolas Hulot, mais qui commentait sa démission.
Oui, absolument.
Autre gadins quand même, gadins, c'est pas tout. M6, oui. Seulement 1 546 000 téléspectateurs et 7,3% de part de marché pour le nouveau magazine Contre-enquête sur l'affaire Nordal-Lelandais, nous en parlions avant-hier. C'est 300 000 de moins que la semaine précédente, c'était un film. Bon, c'est quand même une déception certaine pour ce nouveau programme, mais M6 y croyait beaucoup. Bon, pas
terrible. M6 a du mal avec ses primes, c'est très très compliqué pour M6.
Ouais. Alors... Grand silence.
Ah bah pardon,
grand silence. Non, non, mais c'est, il y a une. Je pense qu'ils ont une vraie réflexion. On a déjà évoqué ça sur le fait. Enfin, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si les téléspectateurs le ressentent, c'est sur cette fabrication des choses, quoi. Ce manque de.
Les reconstitutions.
Des reconstitutions.
Mais qui sonnaient faux, quand même.
Qui sonnaient assez faux, quoi. Ouais. On l'a un peu évoqué avec.
Non, ça sonnait vraiment très faux.
Avec Amandine Bégaud l'autre jour.
Qui en a parlé sincèrement, d'ailleurs.
Oui, qui en a parlé sincèrement, mais surtout sur le fait que, voilà, on a l'impression que c'est le énième, même s'ils ont annoncé grand coup de révélation. C'est un petit peu toujours c'est un peu les émissions de cuisine. Il y en a eu 50. Maintenant, on est sur les émissions de faits divers. Voilà. Quel sera la prochaine martingale, je ne sais pas. Ensuite, la surprise.
Alors, la surprise, parce que je ne pouvais pas accumuler les gadins, même si vous en aviez envie, Valérie.
Non,
c'est pour TPMP. Seulement 896 000 téléspectateurs hier pour Cyril Hanouna qui recevait Lara Fabian. Il faut préciser une chose, c'est que TPMP, il l'a arrêté hier à 20h38. Il n'a pas fait la deuxième partie. Il a enchaîné, il l'a remplacé, tout simplement, par le démarrage du Prime, qui a le plus gros QI.
Ne donnez pas le gagnant, je vous le donnerai.
Gagnant, mais malgré tout, bon, alors après, l'audience, c'est 896 000, c'est pas mal pour un prime sur C8, mais c'est pas le carton absolu qu'on pouvait espérer. Puis alors, on peut se dire que d'habitude, il dépasse le million quand il fait sa deuxième partie de Touche pas à mon poste. Bon, bah là, il l'a pas dépassé. Peut-être aussi s'agissait-il de protéger Balance ton poste, qui est maintenant passé au jeudi. L'audience de Balance ton poste était de 459 000 téléspectateurs hier, donc c'est quand même 150 000 de plus que les précédentes éditions. Donc c'est un peu mieux. Et puis, peut-être juste préciser que Quotidien marche extrêmement bien, a fait 1 575 000 téléspectateurs hier sur TMC, et recevait Delphine de Vigan et Olivier Barou. Et C'est à vous marche bien aussi sur France 5. Donc ce sont les deux talk shows qui cartonnent. 1 360 000 pour Nicolas Hulot avec Anne-Elisabeth Lemoine.
Alors pendant que vous nous donniez ces audiences que j'écoutais avec beaucoup d'attention, je vous lis le papier du Monde. La saison 2, débute sur France 3 après Canal Plus en août 2016.
Donc nous sommes d'accord, elle n'avait jamais été diffusée sur une chaîne en clair, Valérie.
Non, mais sur une
votre
chaîne
maman
cryptée,
l'avait vue sur une chaîne cryptée parce qu'elle
aussi,
paye un abonnement.
Moi aussi, c'est
mais
moi qui paye.
Téléspectateurs ne payent pas.
Et Alain Carazé qui nous suit, je viens de le voir sur Facebook, Valérie a en partie raison. Happy Valley est déjà diffusé sur Canal+, mais je ne pense pas, et Rémi pourra confirmer, que la diffusion sur une chaîne payante plombe à ce point une diffusion en clair.
Ah, alors vous savez, il est bien Alain Carazé, grâce à lui, on est tous d'accord.
Voilà, on est tous d'accord. Merci Alain Carazé d'être vigilant et de nous écouter. Alain Carazé, grand spécialiste des saisies, des séries, et des saisies peut-être aussi, des séries, et qui nous écoute et qui est l'arbitre des élégances.
Qui fait un podcast qui cartonne.
Oui,
mais
on va le recevoir. On va le recevoir. Mais pourquoi on ne règle pas nos comptes en direct, Philippe Verdin ? Dites-moi pourquoi vous trouvez qu'on règle nos comptes en direct ? On a une opinion
c'est
sur les programmes.
C'est une émission
d'humeur. On est un peu dans l'humeur. On dit quand on aime les choses, quand on ne les aime pas. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on...
Non, mais vous aviez raison, ça avait été déjà diffusé à la télévision. Mais sur des chaînes payantes. Donc en général, c'est vrai que l'impact sur l'audience n'est pas... ça ne suffit pas à expliquer une faible audience.
Valérie, qui est une fidèle auditrice... nous dit, j'ai regardé section de recherche, sinon M6, voir un truc parlant d'un monstre comme le Landais, ça ne m'intéresse pas. On en voit assez comme ça sur toutes les chaînes, donc elle n'a pas eu. Et Maryse nous dit, tout le monde n'a pas Canal+. C'est vrai. Donc je crois qu'Alain Carazé
a
fait la synthèse. Donc ce n'était pas une inédit. En même temps, tout le monde n'a pas effectivement Canal+. Et effectivement, ça n'explique peut-être pas la faible audience de
cette
tout
série
ça.
Qui n'a pas convaincu son public.
Ouais. Mais Philippe, dites-moi pourquoi vous trouvez qu'on règle des comptes. On a le droit de dire des choses sur des émissions. On peut débattre. On est une émission de débat et on règle pas de compte parce qu'on n'a pas de compte. On reçoit toutes les chaînes et on n'est pas, de façon totalement transparente et libre et heureusement. Rémi, on va passer à Marie de Toulouse. Marie, vous avez regardé section de recherche, c'est ça ?
Oui, bonjour.
Bonjour,
j'ai regardé. section de recherche, les nouveaux épisodes. Bon, on est un peu perdu au départ puisqu'il y en a qui ont disparu. On a des nouvelles têtes qui arrivent. Donc, moi, je trouve que c'était une série qui est très bien, puis c'est une série policière pour une fois française. Mmh. Et puis, franchement, je rejoins l'avis de votre auditeur sur Norman Lelandais. C'est bon qu'on n'a pas envie de passer des soirées comme ça. Donc, c'est, voilà, ça détend un petit peu, malgré les intrigues. C'est assez sympa, ça rebondit. Et puis, on se laisse prendre au jeu. Et puis, hier soir, je me suis couché à 1h30 parce que j'ai regardé tous les épisodes.
Ah oui, voilà. Une heure et demie, bah dites donc. Et ben vous l'aimez bien, Franck Semonin? Les deux, enfin, qui vous préférez dans section de recherche? Est-ce que vous avez un chouchou ou pas?
Ben oui, comme tout le monde. Ouais. Je pense que c'est Xavier Deluc qui est vraiment très sexy, qui est très bien. Après, c'est vrai que j'aimais bien Christelle Labode aussi, Marnon Azem, qui ont disparu, comme Kamel. Bon, après, il faut s'y faire, mais je trouve que ça détend, ouais. c'est très bien, c'est pas très long.
Et puis on est pris, puis ils sont sympas. Ouais. Merci, merci Marie, et puis bonne sieste, hein, parce qu'une heure et demie, vous allez peut-être pas tenir toute la journée.
Catherine
nous dit, section de recherche pour moi, c'est top, et vous ne réglez pas vos comptes, au moins c'est vivant. Voilà, on aime quand vous donnez votre avis. Alors peut-être que j'ai mal interprété ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est de régler nos comptes entre nous, et on s'aime beaucoup, on travaille ensemble depuis 2 ans, on se taquine, on se charrie, et on n'a aucun problème. Sofiane nous dit, j'aime beaucoup votre émission Média, merci, on aime quand vous donnez votre avis. J'ai regardé l'émission politique, j'ai rigolé quand Marine Le Pen s'est trompée sur le montant du SMIC.
Ah, c'est pas trompé qu'un peu. Hein.
Et c'est pas trompé qu'un peu, effectivement.
Ah bah, je vais vous en parler, on va passer aux zappings.
Alors on a Jean avant de Longjumeau, justement. Non,
on
n'a pas Jean.
On va passer aux
zappings. Eh ben, on passe aux zappings.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Juste un mot de Malibu qui nous dit, j'ai regardé Didier Maïsto, toute vérité est bonne à dire, c'est le site de Didier Maïsto, bien plus intéressant que la télé. Voilà, c'est vrai que sur Facebook aujourd'hui, il y a des lives.
C'est une forme de télé, ouais.
Voilà, c'est une forme de télé. Allez, le zapping.
Hier, il n'y a pas que chez nous, qu'on s'engraine, ça s'est grave engrainé sur les chaînes de télévision. Hier, évidemment, donc Marine Le Pen sur France 2, face à la maire de la ville de banlieue de Gennevilliers, Myriam Derkaoui. Léa Salamé, vous allez voir, a eu du mal à régner, à faire régner l'ordre. Aubervilliers a eu du mal à faire régner l'ordre sur son plateau.
Madame Derkaoui, s'il
dealers,
vous plaît.
Les criminels, ils font sécession, etc.
Madame Derkaoui, s'il vous plaît.
Qui est insupportable en France. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci,
ce soir,
on a
Madame Le Pen.
Clairement
merci,
entendu
Madame
votre message.
Communiste.
Et merci
oui,
infiniment.
Tous les Alberti Villariens sont fiers de l'être.
Oui, oui, j'en doute pas une demi-seconde, mais
pas. Mesdames.
Les valeurs républicaines que j'ai défends.
Fiers de résultats dans vos villes.
Oui, et bien c'est moi qui fais venir, qui obtient les renforts d'effectifs de police,
enfin, c'est
Madame.
Pas possible.
Pas eu besoin de vous.
Stop. Alors je lance.
Bien sûr. Bon, allez,
dans un instant. Dans un instant, c'est la ministre des Affaires européennes.
Oui, non, mais
si. Elle a eu du courage, Léa Salamé. Et ben, moi, à un moment, je les appelais, je me suis dit, ah ben tiens, c'est les Marseillais. je me suis retrouvé devant les Marseillais. Ben, vous allez voir, hein, Le Pen face à Myriam, c'est un peu comme Maëva face à Naka.
Votre jeu ensemble, ça.
Ne bon. Dis pas votre jeu, parce qu'hier, je t'ai expliqué mon point
Maëva,
de vue.
Vous êtes deux.
Ne dis pas votre
Maëva,
jeu.
Vous êtes deux.
Parce que moi, si je suis proche de lui, c'est parce que moi, je pensais pas que. Je te l'ai dit d'ailleurs ce matin. Je pensais pas qu'en fait, je lui plaisais encore. Moi, je pensais que c'était comme Carla, voilà,
j'ai
au début.
J'ai pas dit que tu me plaisais, j'ai dit que t'étais une jolie fille.
Non, t'as dit que tu me plaisais. Avec Julien, on est venu. Mais pas du tout.
Julien! Oh, mais pas les autres à l'histoire.
Non, mais hier, quand on était voir Greg, on l'a posé quoi comme question?
À Greg?
Ouais.
Est-ce qu'il fait ça parce qu'il te kiffe ou pas? Et oui, il te kiffe encore.
Voilà, merci, point. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est que Naka, il me prend de haut, il me fait des leçons de morale, mais au bout d'un moment, la seule personne à qui tu dois t'en prendre, chérie, c'est à Greg et pas à moi. Parce que moi, je n'ai jamais eu aucune ambiguïté envers lui. Donc au bout d'un moment, sois un homme, porte le caleçon, et prends-toi-en à lui et pas à moi.
Vous avez compris la leçon, sois un homme, porte le caleçon.
Alors, bon, Gilles, votre transition était quand même... c'est-à-dire que pour arriver à comparer les Marseillais et l'émission politique, là, je pense que franchement, c'est un tour de force. Je le salue.
J'attends le prix Albert Londres. Hein.
C'est du grand boulot. Mais merci, merci de nous faire partager.
Ben voilà, c'est un parallèle.
Ça va plaire aux responsables politiques.
Bon, j'avoue, il n'y avait pas beaucoup de QI sur les Marseillais. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Cyril Hanouna hier a testé son équipe. Eh bien, qui a gagné? Qui a le plus gros QI de l'équipe? Voici le résultat.
Maxime Beignet, deuxième. Bravo, Maxime. Avec 70% de bonnes réponses, mon Maxime. Très fort, mon chéri. Et Daniel Moreau a gagné.
Bon, bah, c'est Daniel Moreau. Bah, maintenant, on sait que l'émission est bidonnée, donc.
Non,
mais non.
Daniel, on la connaît bien.
On la connaît bien. Ouais. J'ai travaillé avec Daniel il y a 10 ans.
Non, mais il ne faut pas travailler avec vous.
Elle a un vrai, elle a un gros QI.
Ouais. Il y a Pétula qui nous dit « Ok, je ne regarde pas ces conneries, alors les mettez pas à la radio. » Je ne suis pas loin de partager votre avis, Pétula. Je souffre parfois sur certains extraits du zapping.
C'est un exercice de style voilà, où j'ai voulu comparer
on s'amuse un peu.
Voilà. Voilà. Pour finir, vous savez qu'on parle beaucoup du Brexit et de l'Angleterre. Hier, Yann Barthès et son équipe de Quotidien se sont moqués de notre président. Alors, en anglais, on dit, vous savez, on met la langue entre les deux dents, the ou this, et lui dit the. Alors, voilà ce que ça a donné.
This is why. This is critical. This is a big question. This is manufactured.
La langue entre les dents, nom de Dieu. The, pas the.
This is exactly, this is for me, this is how to, this is four examples.
The tongue between the teeth, for God's sakes.
Ils sont cruels.
This is win-win
part. C'est cruel. C'est vraiment...
Mais c'était rigolo, c'était drôle.
C'était sympathique. Je pensais que vous nous auriez mis la déclaration de Nathalie Loiseau hier face à Marine Le Pen, qui est considérée par les internautes comme la déclaration de candidature la plus ratée, parmi une des plus ratées, puisqu'elle a dit à Marine Le Pen...
Non, mais il a préféré mettre les Marseillais. Voilà. Voyez, c'était quand même un peu plus édifiant culturellement.
Quand je vous entends... j'avais décidé de ne pas me présenter, mais finalement je vais me présenter. Marine Le Pen éclate de rire. Et c'est vrai que c'était assez raté.
Spontanéité, c'était un peu discutable.
C'est mon petit zapping à moi. Allez, dans un instant, Julien Magne, directeur des programmes d'Adventure Line Production, pour parler du grand retour de Koh-Lanta. Est-ce que vous allez regarder Koh-Lanta? Est-ce que vous regardez? À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, les invités du jour.
On y est.
Ah, voilà, Koh-Lanta, nouvelle saison de Koh-Lanta ce soir avec la guerre des chefs. Julien Magne, bonjour, vous êtes directeur des programmes chez Adventure Line Production, donc c'est la société de production qui produit ce programme. Et puis Laurent Messeret, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous avez gagné, vous êtes l'un des grands gagnants de Koh-Lanta, vous étiez le vainqueur de la saison 11.
Je crois qu'il s'est arrêté 14, aux portes.
14. Bah alors moi j'avais 6, Gilles me dit 11. Je dois vous dire quand même.
Mais il a remporté le All-Star en 2014, en effet.
Absolument, mais c'est vrai.
Ça va Laurent?
Ça va, je suis en pleine forme, je viens d'arriver là, j'étais en Afrique, je suis rentré ce matin, il y a 2 heures.
Et vous faites quoi? Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on fait après Koh-Lanta?
Eh ben on mange déjà.
Ouais.
On prend
plus de bain, on prend plus de douche.
Je
veux dire que si, on profite de la vie en fait. C'est comme une sorte de mise à zéro qu'on fait Koh-Lanta. On reprend goût à tout. Donc on mange 2-3 fois par jour. On fait plein de choses. On se fait masser. On profite de la vie.
Ça a changé votre vie quand même, Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous auriez fait sans Koh-Lanta? Vous dirigiez vers quoi?
Je continue d'ailleurs toujours. Je suis toujours dans le sport, dans la danse, dans le mannequinage, je suis toujours. Donc en fait, c'est vrai quand vous dites que ça change d'avis, mais c'est surtout point de vue, on va dire, psychologique et spirituel. En fait, ça nous remet en question sur plein de choses. Donc ça change d'avis, c'est sûr. Oui.
Alors, on va parler avec Julien Magne de cette nouvelle saison. Il y a eu une interruption d'un an. On se souvient l'année dernière qu'il y a eu une plainte pour agression sexuelle. La production a décidé d'arrêter complètement. Ça en est où cette plainte? Peut-être avant de parler de cette nouvelle saison.
Alors, c'est entre les mains de la justice. Ouais. Nous, on est en l'occurrence extérieur au dossier parce que ça concerne deux personnes.
Ouais.
Nous, on a pris en effet à l'époque la décision d'interrompre le tournage après 5 jours à peine, parce que les accusations étaient trop graves. Est-ce que ce sera avéré ou pas? C'est la justice qui le dira.
Et pour l'instant, depuis un an, visiblement, il ne s'est rien passé.
Pour l'instant, à notre connaissance, non, les gens sont entendus. Mais ce n'est plus de notre sort.
C'est plus de votre sort. Donc, interruption d'un an, nouvelle saison, avec des nouvelles règles.
Nouvelles règles et grande nouveauté dès le début. Ouais. Vous avez vu certainement cette image incroyable.
Les poteaux.
Les poteaux, et pas 3 poteaux comme d'habitude, mais 21 poteaux. Mmh. 21 poteaux.
Nous, on a eu la chance d'avoir l'émission un peu en avance. Ouais. Regardez le début, il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, les images sont magnifiques avec les îles Fidji. Et puis, sur surtout, vous verrez, ça c'est assez étonnant en télé, je trouve, il y a des moments musicaux qui sont laissés où le commentaire de Denis s'arrête et on laisse vivre les images de Denis Brognard et on laisse vivre les images et ça c'est assez rare, je trouve, en télé.
Oui, il y a une image, pardon, incroyable de drone, qui est la première image du programme où on découvre les 21 poteaux, avec un travelling avant et puis latéral,
en silence, en musique,
et on rentre doucement dans cette aventure qui est incroyable.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de Koh-Lanta, nouvelle saison ce soir, avec de nouvelles règles, avec des images assez fortes, comme vous venez de l'entendre. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour parler du grand retour de Koh-Lanta ce soir sur TF1 à partir de 21h. Julien Magne, directeur des programmes d'Adventure Line Production, est avec nous, ainsi que Laurent Messeret qui est au téléphone avec nous, l'un des grands gagnants de Koh-Lanta, une des figures iconiques, parce que c'est star. Vrai que ce sont des personnalités, Julien Magne, qui à chaque fois, ça fait partie, évidemment, j'imagine, de ce que vous recherchez dans le casting de l'émission.
Oui, dans les sélections, on cherche des gens qui ont une personnalité, mais qui ont avant tout une grande motivation. Parce que vivre Koh-Lanta et subir Koh-Lanta, cette aventure longue, difficile, bah, il faut avoir une motivation profonde qui fait tenir dans les moments les plus difficiles de l'aventure. Donc oui, ce sont des gens, et Laurent a été la parfaite illustration, des gens très motivés, qui veulent se prouver plein de choses. Alors chacun a ses motivations. Hein. Il n'y a pas une motivation unique, mais il y a cette motivation. Et puis oui, des gens qui ont envie d'en découdre, qui sont des compétiteurs, qui ont envie
de vivre des grands sportifs dans cette édition-là.
Il y en a, mais comme chaque année, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout sportifs. Je pense à Chloé, à Cindy.
Chloé, c'est particulier, c'est quand même quelqu'un qui... On se demande comment, d'ailleurs, elle est... Parce qu'elle dit « je ne fais pas de sport ». Et elle se débrouille extrêmement.
On ne va pas tout révéler.
Mais oui, elle va vous surprendre. Et puis d'autres vont vous surprendre aussi.
Parce qu'elle a quand même eu une épreuve personnelle difficile.
Ouais. On ne va pas spoiler, comme on dit. Cédric nous dit ma femme et mes enfants ne ratent pas une saison. Je ne vais pas avoir accès au salon ce vendredi. Voilà.
On est très fiers de ça. Parce que Koh-Lanta.
De quoi qu'il n'ait pas accès au salon.
Non, qu'il n'ait pas accès au salon, c'est son histoire. Mais c'est une aventure qu'on vit en famille. Et c'est un rendez-vous. Et puis plein de gens nous disent. Et puis parmi nos amis qui ne sont pas forcément de gens de télé. C'est une soirée pizza, c'est une soirée en famille, parce que si on regarde juste les chiffres, les 4-14 ans, il y a quasiment 50% des enfants qui sont devant Koh-Lanta, et ça va jusqu'aux mamans, aux papas et aux grands-parents. Donc on est très fiers de ça, parce que c'est une vraie mission familiale.
Je voudrais demander à Laurent Messeret, quelle est l'épreuve la plus compliquée pour vous? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous sur Koh-Lanta?
Alors, pour répondre à la première question, l'épreuve la plus dure pour moi, c'était bien évidemment... l'épreuve de l'orientation, hein. Je ne sais pas si Julien se souvient, j'avais fait les pas à partir du tableau, et bon bref, c'était un peu compliqué cette épreuve-là pour moi.
Oui, tu cherchais le poignard au milieu des caméras.
Oui, c'est ça. Je voyais Denis qui se tournait la tête pour rigoler, je me demandais pourquoi, et ça a duré une heure et demie comme ça. Et sinon, si je devais répondre à ce qui a été plus dur, c'est la nourriture déjà.
Ouais.
Après, des fois, il y a des journées où il se passe pas grand chose, donc je dirais aussi l'ennui. Et les moustiques, les nuits, les moustiques qui sont difficiles, enfin ça dépend des endroits.
Les relations humaines avec les autres candidats, parfois ça peut être un des points, parce qu'on a l'impression que, alors c'est peut-être la production qui met l'accent là-dessus, mais j'aimerais avoir votre avis. Parfois on a l'impression que c'est ça qui prend le pas sur le reste et c'est ça qui est le plus compliqué à gérer.
Chacune des personnes a son adaptation. En fait, moi ça allait avec les gens, moi je m'adapte à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des relations entre certaines personnes qui sont un peu compliquées. Il y a dans Koh-Lanta, vous savez, il y a un peu toutes les personnalités et des fois ça accroche pas, quoi.
Justement, Julien Magne, je voulais vous demander, dans le casting que vous faites, est-ce que ça fait partie des critères du casting de mélanger des personnalités qui vont sans doute s'affronter? On voit qu'il y a notamment un candidat, Victor.
Victor.
Alors lui, il ne veut pas 30 secondes pour voir que c'est une très forte personnalité. Donc, ça fait partie quand même des ingrédients.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On cherche des gens qui sont sûrs.
Est-ce que vous voulez des clashs?
Non. Et ça, c'est une vraie nuance. Et on ne choisit pas les gens parce qu'on imagine les opposés. On choisit les gens, comme je vous le disais, pour leur motivation et pour leur personnalité et cette envie d'affirmer leur personnalité. Après, Oui, il y a des clashs, mais comme dans tout huis clos et comme dans toute famille qui pourrait vivre H24 ensemble. Mais c'est pas ce qu'on recherche dans le casting avant tout.
Et moi, pour vous dire, puisque j'ai un peu connu Koh-Lanta dans ma jeunesse.
Vous l'avez fait, Gilles ?
Oui, non, j'ai un peu travaillé dans les équipes. C'est une des rares émissions où on fait ce qu'on appelle, lorsqu'on fait un casting, on fait des pré-interviews. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes de casting. Et très souvent, dans Koh-Lanta, la façon dont ils se comportent sur l'île est vraiment en dessous du casting parce qu'ils se retrouvent dans des conditions où ils ont faim, où ils ont des épreuves. Et souvent, ouais, on n'imagine pas leur personnalité. On se dit, ah mais j'aurais jamais pensé que lui,
exactement,
aurait fait ça.
C'est ça qui
est fort. Une des rares émissions où on est très surpris de leur comportement, même si on les a énormément castés et travaillés avant.
C'est ça qui est fort dans cette aventure, et c'est en cela que c'est une vraie aventure, c'est que les caractères se révèlent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, parce qu'en effet, le processus de sélection est long. Il y a des dossiers qui sont envoyés, il y a ensuite des interviews téléphoniques, puis une première session d'interviews filmées, puis une deuxième avant de faire la sélection finale. Mais après, il y a la faim, la fatigue, les autres, les épreuves, le stress peut-être pour certains.
Ils deviennent eux-mêmes.
Et ce qui est fort aussi, c'est que même eux, ou elles, ou les garçons, les filles ou les garçons, se découvrent. Et c'est en ça, ce que disait Laurent tout à l'heure est important. Pour beaucoup, quasiment pour tous, c'est l'aventure d'une vie. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus les mêmes après. Alors, ils ne vont peut-être pas changer de vie. On ne vient pas chercher autre chose dans sa vie, forcément, dans Koh-Lanta, comme carrière, comme autre chose. En tout cas, ils ont un regard sur eux-mêmes qui est différent après l'aventure Koh-Lanta. Ouais.
Et là, il y a une grande nouveauté. Vous avez intitulé cet épisode « La guerre des chefs ». Et donc, il y a des chefs. Il y a déjà eu des personnes. Enfin, il y a trois équipes, d'ailleurs.
Trois équipes.
C'était arrivé qu'une seule fois.
C'était arrivé une seule fois en 2017, en effet.
Et voilà, comment ça se... La guerre des chefs, les premiers chefs qui sont désignés suite à l'épreuve des poteaux. Comment vous les avez trouvés ?
Alors, la guerre des chefs commence donc par les poteaux, comme vous disiez. Ouais. Les trois meilleurs sur les poteaux vont, sans le savoir au moment où ils disputent l'épreuve, être désignés.
Ça va changer beaucoup de choses.
Hein. Des trois tribus, les rouges, les jaunes et les bleus. Et donc, ces trois chefs vont avoir un rôle prépondérant dans l'aventure. Ils ne seront pas seuls responsables, parce que les autres vivent et continuent à vivre leur aventure, mais ils vont avoir un rôle important sur les jeux de confort, parce que c'est eux, en cas de victoire, qui vont choisir seuls, pour l'ensemble de leur tribu, la récompense qu'ils auront gagnée. Ouais. Et vous verrez, à un moment donné, la vie du chef va peut-être être remise en cause, parce que les autres auraient préféré telle récompense plutôt que telle autre.
Ouais, alors pour donner un exemple, parce que c'est dans le teaser de début, Valérie, c'est qu'ils ont à choisir entre de la nourriture ou le portable. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous préférez manger ou préférez téléphoner à vos enfants ou à vos proches ? Et évidemment, quand vous êtes une mère...
Ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va pas être pareil.
Etc. Donc, maintenant, il y a un choix sur le jeu de confort. On le voit très vite dans le teaser, je ne spoilie pas. Et là, c'est les chefs qui vont décider.
Sur l'épreuve d'immunité, le chef aussi va faire gagner ou perdre sa tribu. C'est lui ou elle qui aura un geste décisif pour faire gagner ou perdre sa tribu. Ouais. Et autre grosse nouveauté, c'est une première dans Koh-Lanta, les chefs des deux tribus qui ne vont pas au conseil assisteront au conseil et donc auront un œil, et ça c'est intéressant stratégiquement, auront un œil sur ce qui se dit dans une équipe, sur les amitiés, les alliances, les tensions potentielles.
Et on voit que ça ne plaît pas du tout.
Et si jamais il y a égalité au vote, ce seront les trois chefs et uniquement eux qui départageront les gens qui seront mis en balance.
Moi, je me suis demandé si vous aviez un plan B, parce qu'on voit qu'à la fin, il y a... Bref, si tout le monde était tombé des poteaux en même temps, comment vous auriez désigné les chefs ?
Ben oui, mais ça s'est pas passé.
D'accord, mais vous n'aviez pas un plan B dans...
On a toujours des plans B, on les garde pour nous.
Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette émission ?
On part avec une équipe française de 120 personnes. Ouais. Sur place, tout corps de métier confondu, évidemment caméraman, ingénieur du son, journaliste, décorateur, constructeur, cuisinier, on fait appel à des équipes locales,
docteur
évidemment, on a un gros staff médical, régisseur, marin, etc. Et puis on fait appel aux compétences locales, en l'occurrence aux Fidji, avec des constructeurs, des pilotes de bateaux, des gens pour la sécurité.
C'est compliqué d'obtenir les autorisations.
C'est un gros travail.
Comment vous choisissez les différents endroits qui sont à chaque fois assez exceptionnels ?
On a tout un cahier des charges qui est précis. Le premier, c'est évidemment un décor incroyable, coupé du monde, pour qu'il soit à la fois exotique et vrai. On ne veut pas que les aventuriers, on les présente isolés sur une île et puis devant passent X quarts de touristes. On a une autre contrainte.
Avec la glacière.
Mais c'est difficile d'obtenir les autorisations.
C'est difficile, oui. C'est difficile. Et il y a de moins en moins d'endroits dans le monde comme cela. Et autre paramètre très important, c'est qu'on doit être à proximité d'un hôpital aux standards internationaux. Voilà.
Laurent Messeret était avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite.
On peut le retrouver sur Ushuaïa TV.
Ushuaïa TV. Et puis, j'ai vu qu'il avait un site très bien fait. Il fait des stages, etc.
Plein de commando,
plein de choses. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
Et puis, j'ai hâte de voir l'épisode de soir.
Vous allez être devant la télé ce soir, Laurent ?
Écoutez, maintenant, oui, je regarde tout le temps, tous les vendredis.
Écoutez. Regardez. Devant la télé, 21h sur TF1, Koh-Lanta, donc grand retour avec la guerre des chefs et puis les poteaux, les images, les premières images sont assez saisissantes. En effet, merci à vous.
Il faut regarder.
30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Voilà, donc ce soir... C'est samedi.
C'est samedi soir, je vous propose de mettre vos moon boots et puis d'aller au Québec, mais cette fois-ci, le Québec sous la neige. Alors j'ai contacté Sophie Jovillard, des Chappées Belles, et je lui ai donné 30 secondes pour nous convaincre
de regarder cette émission consacrée au Québec.
Au Québec.
Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous emmener en voyage, et en effet, cette semaine, c'est une réelle aventure hivernale que je vous propose. Alors bien sûr, nous allons découvrir la gentillesse de nos cousins québécois, mais j'ai très envie de vous emmener dans une région magique assez méconnue, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Il s'agit de la Mauricie. On va réapprendre à prendre le temps de profiter de la vie, les amis, sur un territoire intact avec des forêts absolument exceptionnelles. Donc au programme, je vous propose plein de choses, pêche blanche, hydravion ou encore balade en chien de traîneau.
Oh là, ça donne envie.
Oui,
on va
regarder donc demain sur France 5 et puis ce soir évidemment Koh-Lanta. Allez, on se retrouve nous dans quelques instants avec Gérard Collard pour parler livres. Merci à vous et bon week-end.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et le vendredi, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard.
Bonjour, vous pourriez faire DJ avec les petits boutons, les machins, j'adore. Ça vous va bien.
Je suis moderne.
Ouais.
Alors, vous avez lu quoi cette semaine, Gérard ?
Alors, on va commencer par... Vous vous souvenez, il était paru Le Lambeau, qui était un livre absolument terrifiant. Ouais. Enfin,
de
absolument.
Philippe Lançon, qui a été blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo.
Qui raconte...
Qui vient de paraître en poche, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est indispensable, c'est un livre incontournable.
Qui était quelque chose absolument... j'ai ressenti le même genre d'émotion, et qui est aussi incontournable, c'est Le fil de nos vies brisées.
Le fil de nos vies brisées de Cécile Aignon, et c'est aussi bouleversant que cette photo qui a été faite par un journaliste de l'AFP, de ce vieil homme qui est à Alep, qui vit dans les ruines de son appartement. C'était un grand collectionneur de voitures, ce monsieur, parce que je me suis renseignée sur cette photo.
Ça résume exactement le livre. Hein. Donc, la journaliste l'a recueilli. Alors, Alep, c'était la route de la soie, la capitale économique de la Syrie. Des gens, c'était le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il y avait les gens de tous horizons qui étaient très ouverts sur le monde.
Incroyable.
Très belle, en plus, magnifique. Et puis arrive, il y a le fameux dictateur qui est là. Ils n'en peuvent plus, ils font la révolution, ils croient que la révolution va solutionner leurs problèmes. Ce n'est pas du tout ça. En plus, vient s'intégrer là-dedans, ça gérer les intégristes musulmans, Daesh et tout. La ville est divisée en deux, ils sont bombardés, c'est une horreur. Mais là, elle a recueilli des textes et des témoignages absolument incroyables. Alors vous avez
des portraits, c'est presque un roman en fait.
Parce que c'est comme
un roman. C'est le roman d'une ville et d'une vie et de vie.
Oui,
mais c'est
en plus,
un peu pompeux, mais c'est roman d'une ville et de vie.
Et alors, ils racontent Alep avant, c'est-à-dire avec tous leurs espoirs, les rencontres, cette culture qui est partout, cette joie de vivre. Et puis, ils racontent après, c'est-à-dire le désespoir, la fuite, la violence, la terreur. Mais ce que je disais qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont subi, malgré... ils arrivent... Ils se disent, on va recommencer, la vie va recommencer, rien n'est jamais terminé. Et moi, je ne suis pas ressorti. Alors, c'est comme Le Lambeau, je ne suis pas ressorti anéanti. Parce que je trouve que ces gens, ils vous donnent une sorte de peps. Puis vous êtes émus, parce que les témoignages sont absolument incroyables. Ce n'est pas des magots, ce n'est pas voyeurs. Et si vraiment vous avez été touché par Le Lambeau, vous serez absolument touché par ce bouquin.
Ce qui a un côté de profonde humanité, c'est d'une profonde humanité.
Incroyable.
Parce qu'on retrace la vie de ces gens qui racontent leur vie, comment ils ont vécu dans cette ville magnifique qui était Alep.
Ce sont des gens qui nous ressemblent. Oui. C'est-à-dire que quand ils nous racontent ça, ça pourrait être notre grand-père, notre fils, notre père, nos enfants, le voisin d'à côté. Et là, on voit leur vie complètement explosée. Mais... Alors, c'est terrible de dire ça, mais je trouve ce livre beau. C'est-à-dire,
c'est très beau, oui, sur l'humain.
C'est vraiment, c'est un résumé, un condensé de tout ce que la vie humaine a de terrible et de magnifique. Allez-y, parce que je sais qu'il y a beaucoup
puis
de gens qui ont
peur. La survivance,
cette espèce d'accrochement à la vie.
L'instinct de vie.
Et allez-y, parce que moi, à la boutique, c'est vrai que c'est un peu compliqué à vendre, parce que l'ambiance en ce moment étant telle ce qu'elle est, les gens pas... Allez-y, c'est magnifique. Franchement...
Oui, vraiment. Ça s'appelle « Le fil de nos vies brisées ». C'est aux éditions Anne Carrière et l'auteur, c'est Cécile Aignon. Elle est journaliste au Monde et c'est vraiment un remarquable travail qu'elle a fait.
C'est un peu le traumatisme des attentats de Charlie Hebdo multiplié par des milliers de personnes. Quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. Non, allez-y. Je vous dis, c'est comme la couverture.
Parce qu'il y a choses qui sont totalement surréalistes, des événements, des
incroyable.
Vies. Vraiment,
incroyable.
C'est comme cette photo magnifique. On va parler de femmes ce petit livre chez Marabule, Un clou dans le bec, Maxime Poiseau et Emmanuel Terrasse. Alors, Emmanuel Terrasse, elle est illustratrice et Maxime Poiseau, il est comédien, metteur en scène. Et alors, en fait, c'est un dessin qui a fait le tour d'Internet où c'est un couple qui déjeune ou qui dîne, qui sont attablés et la femme dit à l'homme, voilà, j'ai été réglée à 12 ans, ménopausée à 53, 41 années de règles douloureuses. Lorsque j'ai accouché de Catherine, les forceps m'ont causé une déchirure de 13 cm. Pour François, la césarienne en urgence. Enfin bref, elle raconte toute sa vie. Ouais. Et elle dit, alors Victor, votre problème de prostate, comme vous le dites si bien, je m'en bats les couilles avec des raquettes en bois. Et en fait, ce petit livre, ce sont des choses entendues. Il y a de la part de femmes sur des situations qu'elles ont vécues. C'est pas du tout... c'est très drôle. Il y a une fille qui se retrouve dans la rue face à deux racailles. Elle dit, donc si je vous donne mon 06, je suis une salope. Si je ne le donne pas, je suis une pute. Mon cœur balance. Ça, c'est Nelly de Villeurbanne qui raconte ça. Il y a plein de situations dans les bureaux, de situations dans lesquelles les femmes vont vraiment se retrouver. Voilà. Donc, Un clou dans le bec, la BD qui libère la parole des femmes, c'est chez Marabule. C'est aussi joyeux que la couverture. Maxime Poiseau et Emmanuel Terrasse.
Ouais, c'est très sympa.
Très sympa, 10 euros. Vous pouvez l'offrir, vous allez dîner, plutôt que d'offrir des fleurs, c'est périssable. Ouais. Des bonbons, c'est plein de sucre, c'est pas bien.
Il faut l'offrir au mari.
Oui, il faut l'offrir au mari. Ouais. Mais aux femmes aussi, ça va les faire marrer. Moi, ça m'a fait marrer, je l'ai pris, j'ai commencé à regarder. C'est très drôle, c'est bien vu. Voilà.
Parce que nous, on est souvent inconscients de ce genre de choses. Voilà.
Oh non, pas vous, Gérard. Vous êtes
parfait. Je sais, mais je suis quand même exceptionnel.
Alors, autre livre.
Alors, c'est pour les enfants. Hein. J'ai trouvé ça génial. C'est un livre.
Ça s'appelle Les filles peuvent le faire aussi.
Voilà. Et vous retournez de l'autre côté.
Et les garçons peuvent le faire aussi.
Et je trouve que pour les enfants, c'est super bien parce que, par exemple, il montre le type même, c'est le garçon qui veut faire de la danse classique. Ouais. Donc, on va le traiter en disant mais attends, la danse classique, c'est pour les filles, c'est pas pour toi. Tu vois, toi, tu dois être camionneur, pilote, avocat. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, lui. S'il aime jouer à la poupée, on lui dit mais c'est quoi, c'est une catastrophe. Enfin, le père il vient terrorisé en disant mais pourquoi tu joues à la poupée. Puis de l'autre côté, la fille, elle a pas envie forcément de lire La Comtesse de Ségur ou des trucs à l'eau de rose. Elle a peut-être envie de lire des polars. Elle a envie de construire des baraques,
des cabanes dans les arbres.
Voilà, elle peut être pompier, pilote.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est les deux en même temps. Ils disent tu peux t'habiller en rose avec des jolis vêtements pailletés qui brillent comme le soleil en été, ou en bleu, en noir et en gris avec dessus des dinosaures et des whistiti, tout est permis. C'est que les deux sont possibles.
Absolument possible.
On n'est pas obligé de choisir. Tu peux aimer les costumes de pirates pour combattre avec ton épée les mers déchaînées, ou préférer te déguiser en princesse. Et le dessin est très réussi. Sophie Gourion, Isabelle Maroger.
Oui, il n'y a rien d'interdit, c'est ton plaisir, c'est ta liberté de choisir ce que tu veux.
Et pour les garçons, c'est pareil. Tu peux, quand tu seras grand, vouloir soigner les animaux, les chiens, les chats, être un vétérinaire, ou préférer devenir pompier ou policier. C'est plein de petites choses.
Ça devrait être distribué dans toutes les écoles maternelles, ça.
Tu peux avoir les cheveux courts parce que les mèches dans les yeux et les nœuds, c'est ennuyeux, mais aussi tu peux aussi préférer les cheveux longs, aimer les attoyer, les attacher. C'est contre tous les clichés, les stéréotypes.
C'est génial.
C'est aux éditions Ground. Très bon choix.
Allez, on rit parce qu'on a besoin de rire.
Oui. Nicolas Robin. Alors lui, il avait écrit... Voilà, Roland est mort. Alors, on commence, professionnel. le professionnel, c'est pas le professionnel, Roland est mort, Nicolas Robin. Alors ça, c'était un petit bijou, c'était un premier roman.
C'est l'histoire de ce caniche, il hérite du caniche d'une dame qui est morte, et là, ça va de la catastrophe, dans toute sa vie
en
va
fait,
changer.
En fait, c'est son voisin qui meurt, et il se retrouve à hériter du chien dont personne ne veut.
Ça commence. Et alors l'autre à côté...
Donc ça, c'est un petit poche qui ne coûte pas cher du tout, Nicolas Robin.
C'est une parenthèse de plaisir et de bonheur, ce livre. Si vous avez vu, il pleut, il fait pas beau le week-end, c'est terrible. Là, alors c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air.
Ça s'appelle Ma folie passagère.
Ouais, chez Anne Carrière aussi. Elle s'appelle Bérangère. Hein. Moi, je l'ai toujours trouvé ce truc un peu neuneux, Bérangère, mais bon, il paraît que ça se porte.
Voilà. Pas plus que Gérard. Et donc,
Gérard, bon. Alors, on va passer. Alors, Bérangère, elle est classique, un peu hôtesse de l'air vintage, la quarantaine, avec le chignon. Elle se fait larguer. Là, elle vient se faire larguer par une vendeuse. Son mec l'a larguée pour une vendeuse de tartiflettes, donc elle est un peu vexée. Elle va prendre l'avion. Elle devait partir à Hawaï. Elle se retrouve dans un truc à Winnipeg où il fait très froid. Et là, dans l'avion, c'est une espèce de portrait de toute l'humanité. Alors, vous savez, ces gros beaufs qui chantent et qui ont bien bu. Et voilà, il y a le gros beauf aussi qui n'arrête pas de lui pincer les fesses. Alors vous allez voir comment elle va l'éliminer grâce à une porte de toilette. Ça, c'est un truc énorme. Elle va retrouver son copain qui était en 4e B qui s'appelle Rodrigue. Alors, vous savez, les enchants, vous retrouvez en 4e, il était moche, et puis elle était grande et tout. Et là, je ne vous dis pas ce qui va se passer. C'est plein de rebondissements, c'est plein de finesse, c'est comme une gourmandise et tout. Vous ressortez de là-dedans, c'est comme la couverture, c'est rose. Et puis... C'est du feel good, mais intelligent, mais la intelligent, française, parce qu'il y a quelque chose dedans. Et puis, vous savez, il y en a certains qui n'aiment pas les femmes de 50 ans en disant que c'est fini. Bah, elle, il va contre le truc en disant à 40 ans, une femme, c'est fini. Et pas du tout. Là, vous allez découvrir une femme à 40 ans. Elle n'est pas finie. Elle est très, très jolie. Et c'est fin. J'adore ce genre de bouquin. Puis je trouve qu'on en a besoin en ce moment. Et qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que maintenant, les gens sont tous des cancers, de suicide et tout. Allez-y, c'est une pure gourmandise.
Il a une plume assez légère, en fait.
Il a énormément de talent, parce qu'il fait pétiller les mots. Absolument. Il leur donne
pétiller les mots, ça, c'est joli.
Oui, non, mais c'est vrai, il fait pétiller. C'est un peu comme Nadine Monfils, mais lui, c'est version française. Elle, c'est version belge. Et elle fait pétiller les mots.
Un livre de cuisine, je ne sais pas si je vous en ai parlé, Jean-François Piège, qui vient de publier un livre magnifique chez Hachette Pratique sur les tartes. Alors, toutes les tartes, il y a 70 recettes de tartes sucrées, salées. Toutes les recettes pour réussir votre pâte. Parce que la pâte, souvent, alors on peut l'acheter toute faite, mais alors, c'est un livre qui est très chouette. Les photos sont hyper inspirantes. Alors, bon, moi, je suis au régime, donc je vais attendre avant de le faire. Mais vraiment, vous avez la tarte au comté.
Et c'est faisable
Oui, c'est hyper facile. Mais c'est des bonnes idées, en plus, des trucs... C'est original. C'est vraiment... Allez-y, parce que c'est...
Beau. C'est joli à regarder.
C'est joli à regarder. En plus, moi, j'en avais l'eau à la bouche, pour vous dire. En vrai, j'avais l'eau à la bouche. Donc, des tourtes, des quiches et des tartes. Les quiches, c'est un peu vous.
Bien, alors, sur cette gentillesse, voilà. Je savais bien qu'un jour, votre vraie personnalité se dévoilerait. Voilà. Et moi, je vais continuer. Lucullus. Personne ne sait qui est Lucullus.
Un peu, quand on aime la cuisine, mais allez-y.
Oui, mais en général.
Oui, en général.
On connaît Lucullus. Et bien là, ça se lit comme un roman, c'est une biographie. Et vous allez découvrir
chez Talandier, l'art de la guerre, Lucullus général et
vraiment Lucullus. En fait, Lucullus, est sous l'Antiquité, c'était un copain de Jules César, de Cicéron. C'était un aristocrate très, 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 très riche, surdoué pour la guerre et qui vivait d'une façon incroyable, qui était gastronome, gourmand et tout, puisque dans tout Rome, sa cuisine et quand il recevait les gens, c'était vraiment une réputation incroyable. Et vous avez découvert, c'est toute une histoire de l'Antiquité. Alors, il avait des ennemis, Pompée, des gens... J'adore ça, c'est comme un roman de KPDP version Antiquité. Et puis surtout, vous allez apprendre...
Il était très riche, hein.
Ah ouais. Et puis l'Aristo de chez Aristo, vous voyez, c'était vraiment... il n'était pas très aimé des soldats parce qu'apparemment, il était un peu dédaigneux, voyez-vous. Mais alors, par contre, il était tellement riche, il pouvait se permettre plein de choses. C'est une vraie découverte, hein, parce que moi, Lucullus, à part...
Oui, mais vous avez raison, vous avez raison de le dire.
Le resto qu'on appelait Lucullus, aux saveurs de Lucullus. Rien du tout. Et en fait, c'est un vrai, véritable livre d'histoire. Et puis, vous pourrez le ressortir dans le prochain dîner que vous allez faire. Au fait, Lucullus, vous connaissez. Je crois qu'il est mort en 50. Il est né en 54 et il est mort en moins 16 avant Jésus-Christ.
Et c'est vrai que c'est ce que dit la quatrième de couverture. Ça a donné son nom à des mets et à de la nourriture industrielle.
Ben oui, il n'y a pas de.
J'ai envie de le lire.
Et,
voilà.
Et en plus, c'est super bien écrit. Hein. C'est vraiment, vous êtes dedans. C'est le gars, il est. C'est un garçon. Oui.
Yann Le Boeck, Lucullus Général.
C'est un joli cadeau.
Et gastronome. Vous me l'offrez ?
Oui, je vais vous l'offrir. Après toutes les gentillesses que vous m'avez faites, je ne peux pas faire autrement.
Merci beaucoup, Gérard. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant. Merci pour toutes ces suggestions. Il y en a pour tout le monde. Du poche, du sympa. Enfin, tout est sympa, tout est bien. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio.